RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC pour tous les passionnés de la course à pied, avec Yoann Durand, bien sûr, notre maître Yodu, le docteur Love. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Tu poursuis les conseils sentimentaux d'ailleurs pendant l'été ou pas?
Non, là l'été c'est calme plat.
Ah
là,
d'accord,
c'est...
très bien.
Je farniente, je fais une pause surtout. Je m'entraîne un peu quand même,
okay.
Mais il n'y a plus de conseils.
Et en septembre,
le cabinet est fermé.
En septembre c'est le bilan des amourettes de vacances alors.
Est-ce que vous avez rencontré une amourette au camping, sur la danse des canards et tout ça? Et comment ça s'est passé? Tu vois, il y a un bilan à faire par rapport à tout ça.
Alors la communauté me fait passer un message, tu vas te calmer sur les glaces par contre. Parce qu'apparemment tu prends du bide, donc méfie-toi.
Non mais, et ça c'est une vraie problématique de l'été, c'est que moi je pourrais manger des glaces mais H24.
Bon,
oh, c'est le bonheur.
Bon, événement aujourd'hui, le grand débrief d'une aventure folle. Jour de marché, le Tour de France en courant de Duncan Périlla, l'ami Duncan qui est avec nous en studio. 30 jours de souffrance, d'épreuves à surmonter, mais aussi de belles rencontres, de moments inoubliables. Il est là avec le sourire en plus. Salut Dunk.
Hello, salut équipe.
Je suis content de te voir.
Ouais, bah moi aussi.
Ouais.
En vie.
Ça va?
Ouais,
en vie.
En vie.
On rassure la famille, il est en vie.
Voilà. Ah, on l'avait vu quelques jours avant, 3 jours avant.
Ouais, c'est vrai, c'était juste avant cette magnifique aventure. Dunk, on a hâte que tu nous racontes tout ça, les péripéties qui ont jalonné comme ça ces 30 jours. Rappel important, si vous aimez RMC Running, venez sur les réseaux sociaux, le club RMC Running sur Strava, le compte Instagram. Également sur les plateformes de téléchargement, abonnez-vous, comme ça dès que l'épisode sort, vous avez une petite notification. Allez, on enfile les baskets, on attache les lacets, on monte sur l'elliptique, on va retourner sur le Tour de France dans un camp. Allez, c'est parti.
RMC Running.
Comment ça va, d'accord?
Bah écoute, ça va. Hein.
Ça va?
Ça va, ça va.
On récupère. Pas trop mâché, tu dors pas 14 heures par jour?
Je dors pas mal et si j'ai les jambes bien bien fatiguées.
Ouais.
Au final, je m'en rends plus compte après, presque pendant. Enfin, pendant, je courais doucement, mais je m'en rendais finalement pas tant compte. Et après, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées depuis que je suis arrivé, quoi.
Je rappelle ce défi que tu t'étais lancé. Hein, c'était 100 km par jour pendant 30 jours, 3000 km pour tenter d'établir un record du monde d'ultra-endurance. Ça s'est pas passé exactement comme tu l'aurais voulu. Il y a eu des péripéties dès le début, d'ailleurs, on va le raconter, mais tu ressors psychologiquement content de l'avoir fait quand même. C'est, quoi qu'il arrive, ce souvenir restera gravé dans ta mémoire et tu le garderas comme un bon souvenir d'ailleurs.
Je pense que c'est le truc le plus fort que j'ai vécu
de
ma vie, pour le moment, c'est sûr ça.
Ouais. T'es fasciné par ça, toi Yodu? On s'envoyait des messages pendant ce périple, on le suivait comme ça, le Duncan, et on trouvait ça fantastique quand même d'assurer comme ça, d'assumer 30 jours d'affilée. C'est bluffant ce qu'il a réalisé quand même. Hein.
Bah, on en parlait au début parce que c'est vrai que c'était un peu un saut dans l'inconnu de courir plus de 100 bornes et tout. Bon, on a vite vu que ça allait être compliqué, mais après, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est tout ce qu'il a réussi à raconter, tout ce qu'il a fait autour de ça. Et le projet, il est magnifique. Et après, c'est vrai que 30 jours, moi, à un moment donné, je me suis dit, je me suis dit, va arrêter, tu vois, je le sentais un peu, il nous dira, mais de l'extérieur, j'avais l'impression qu'il était usé, tu vois, et je me suis dit, il va lâcher parce qu'il peut-être il croit plus au projet ou tout ça. Et là, c'est dur de trouver les ressources nécessaires pour terminer. Et puis, il y a un facteur, il va en parler, mais il n'a pas été aidé par la période, par la chaleur. Le pauvre, il est tombé sur les 30 jours où il a fait le plus chaud, je pense, de l'histoire en France en juin, quoi.
C'est vrai, c'était fou ces conditions. C'est vrai que c'est particulier, tu te lançais un grand défi, malgré tout tu voulais vivre une aventure humaine, c'est ce que tu as fait avec ton équipe notamment.
Ouais.
Et il y avait cet inconnu, tu n'avais jamais couru sans bornes. Jamais tu l'avais fait, tu voulais l'enchaîner mais tu l'avais jamais fait une fois.
J'avais couru un ultra, du coup j'avais fait,
fait l'ultra de Saint-Jacques.
Fait 127 km.
Ah si, 127 bornes.
Ouais, quand même.
Ouais.
Et au final, le lendemain, j'étais allé courir quand même.
Ouais.
Aussi, donc
je me suis dit, bon, c'est pas si dur.
Ouais, voilà, je m'étais dit ça va, mais après le lendemain, j'étais juste allé faire un petit footing vraiment tranquille. Je repartais pas pour 100 km,
ouais.
Donc ça, c'était un inconnu. Mais surtout aussi, j'avais couru dans des chemins, et là, j'ai couru presque que sur la route. Et déjà, ça aussi, ça change, et je pensais pas que ça changeait à ce point-là. Et l'allure moyenne aussi était différente.
Alors justement, allons-y, tu lances le projet, on t'avait dit ne pars pas trop vite, t'es parti trop vite.
Bah après, le problème c'est
après, toi c'est des allures très faciles pour toi, mais c'est vrai que premier jour c'est quoi, 4.30, 4.40?
Ouais, 4.40 de moyenne, 4.40. J'ai fait une partie en... le plus rapide, les kilomètres les plus rapides quand même en 4-15 et les kilomètres les plus lents en 5, on va dire.
C'est très facile pour vous, hein, Yoyu et toi. Hein.
Oui, mais bon, sur 9 heures d'effort, c'est ça, ouais. Ça use.
Et raconte-nous alors ce premier jour, comment ça se passe ?
Bah, le premier jour, j'arrive, finalement, je fais presque pas de pause jusqu'au 50e. Et je me dis, je passe au marathon un peu plus de 3 heures. Je me dis, bon, bah, je me dis, ça va, c'est tranquille. J'ai l'impression de faire un footing. Il y avait du monde avec moi. Je voyais pas le temps passer. Après, jusqu'au 70-80, je me suis dit, bien, c'est vraiment facile. Aujourd'hui, j'avais 114 km le premier jour, ce que j'ai fait du coup.
Ouais.
Et je me dis, bon, bah, ça va, c'est tranquille. Et c'est vrai qu'à partir du... C'est vers le 100e à peu près, où je me dis, ah, je commence à avoir les jambes. Je sentais que j'avais les cuisses qui commençaient à être bien un peu abîmées, quoi.
Pas une blessure ciblée, mais des courbatures qui
s'accumulent. Ouais, voilà,
les jambes un peu hachées.
Exactement, ouais. Voilà, des courbatures. Mais avant le 100e, on va dire, je commence à avoir une petite fatigue un peu générale à partir du 80, une lassitude, un peu une fatigue qui fait que tu as envie un peu de ralentir. Et après, vers le 100e, je sentais que musculairement, je commençais à être dans le dur. Et les 10 derniers kilomètres, beaucoup plus. J'arrive, je me dis, ah ouais, j'ai quand même les jambes vraiment ravagées. Ça va être compliqué le lendemain. Voilà, après ça, au final, on passe pas mal de temps dans la soirée. En fait, vu que c'était tout un projet qui n'était pas uniquement juste côté performance, voilà, première nuit à dormir dans le camping-car, Rabat qui devait gérer justement la vidéo pour partager l'expérience de la première journée, toute l'équipe qui était là, je me suis retrouvé à me coucher, il était finalement plus de minuit et je me levais à 6h le lendemain.
Ouais.
Donc au final, j'ai à peine dormi. Je repars le lendemain matin.
Le premier jour, il y a l'excitation et tout. Ouais. Tu termines cette journée et le lendemain matin, au réveil, tu constates les dégâts, quoi.
Exactement.
Ouais.
Donc le lendemain matin, je pars, je me dis, oulala, c'est sûr que je vais partir plus lentement. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je suis prudent, je parle plus lentement. Mais en fait, même plus lentement, c'était un peu trop. Ouais. Surtout que deuxième jour, plein soleil, plus de 30 degrés. Et là, vers le 60e kilomètre, je ressens une vraie douleur au tendon, genre assez intense. Tout de suite, je me suis rendu compte que c'était probablement le tendon
d'Achille.
Tendon de l'essuie-glace, en fait, le syndrome de l'essuie-glace.
Ah, d'accord.
Ouais, le TFL.
Ok.
Et je m'arrête. Finalement, je me retrouve à repartir, à faire quelques kilomètres. Et là, je m'arrête à nouveau et je me dis, oh là là, c'est vraiment douloureux. Il faut que je vois un kiné, une kiné. Il faut que je sois sûr de ce que c'est parce que là, sinon, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça.
Okay.
On se dit, bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, j'ai déjà fait 65 km aujourd'hui. Avec la veille, ça faisait quand même 180 km sur deux jours. On s'est dit, bon, allez, vaut mieux finalement prévenir, entre guillemets, que guérir. Et voilà, et du coup, on se retrouve à demander si dans nos contacts, enfin, sur Instagram, s'il y a quelqu'un vers Salon de Provence, s'il y avait un ou une kiné, on en trouve une qui confirme que c'est un syndrome de l'essuie-glace, globalement. Et voilà, et l'idée c'était au début, du coup, elle m'a dit, bon, bah ouais, tu peux, pour l'instant, c'est pas très grave, tu peux pousser un peu dessus, voir un peu comment c'est dans les prochains jours, c'est vraiment pas gagné, mais voilà. Et du coup, après, j'ai fait les quelques jours qui suivaient, bah, en continuant 100 km, 100 km, 100 km, jusqu'au moment où vraiment c'est devenu hyper douloureux. Et où vraiment je me retrouvais à boiter, donc je boitais en courant, mais je boitais même en marchant. Donc, je traînais un peu.
C'était vraiment ça, c'était ce syndrome-là, quoi, l'essuie-glace. Enfin, beaucoup de ceux qui nous écoutent l'ont eu.
Ils l'ont eu. Ouais.
Yodu, toi, je crois pas. Moi, je l'ai connu aussi au début de ma pratique de course à pied. C'est extrêmement douloureux.
C'est douloureux.
C'est mécanique, donc tu peux rien faire.
Ouais,
au début, t'as pas mal, et puis ça vient d'un coup, et là, c'est une douleur insupportable.
Exactement. Et ben, imagine-toi qu'entre Carcassonne et Toulouse, je pense que j'ai eu cette douleur sur presque 100 km. Je pense que j'ai couru pendant presque 10 heures avec cette douleur.
Tu l'avais jamais eu, toi, en tant que coureur ?
Non, jamais. Ouais. Moi, j'ai jamais été. Ouais, pourtant, j'ai déjà fait beaucoup de semaines, tu vois, 230, 240, 250 km. Jamais ressenti ça. Mais bon, là, c'était.
Comment tu le vis moralement, déjà ? D'être dès le deuxième jour un peu dans la difficulté, alors que tu devais te dire, bon, je vais m'adapter, m'acclimater au début, puis après, ça va aller au fur et à mesure des jours. Là, de voir que dès le jour 2, c'est compliqué.
Et eh ben, je me remets un peu en question. Je me dis, oula, comment ça se fait que je me blesse aussi rapidement? Justement, je me dis, bon, bah, je suis probablement parti trop vite. Effectivement, déjà, je ne pensais pas repartir le matin même aussi courbaturé. Après, je me suis dit, peut-être que je ne me suis aussi pas assez hydraté. Il faisait plus de 30 degrés. Donc,
12 litres d'eau le premier jour, j'ai bu.
C'est énorme. Ouais, j'ai bu une quantité affolante. Ouais, ah ouais. Les autres jours aussi, je faisais que boire toute la journée.
Ah ouais.
Mais non, moi, l'idée, j'étais encore quand même dans le projet et dans l'idée de faire un maximum de kilomètres. Et quand j'ai su que c'était que le tendon, entre guillemets, c'est pas comme une fracture de fatigue, donc je pouvais continuer. Ouais. Moi, l'idée, c'était d'arriver à doser un peu la douleur pour aller le plus loin possible.
Ouais. T'es vraiment sur la ligne de crête de supporter la douleur ou quand ça devient insupportable. Quoi. C'est toujours jongler là-dessus. Quoi.
Ouais. C'est ça.
Elle t'a pas conseillé d'aller chez Noroto changer l'essuie-glace?
pas le temps.
Non, mais Yodu, c'est des douleurs mécaniques. Donc là, malheureusement, dès que ça se déclenche, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, à part mettre du froid et puis compenser un peu.
Alors le problème, c'est voilà, il faut faire un peu de repos relatif, mettre du glace. Il faut vachement détendre la zone du fascia parce qu'en fait, c'est un muscle qui s'insère à la hanche et qui descend sous le genou. Et c'est toute la bandelette iliotibiale, là, le fascial attaque que vous avez à l'extérieur de la cuisse, qu'il faut détendre, donc il faut faire du rouleau, il faut taper dedans, faut faire des trucs comme ça pour un peu te détendre. Mais c'est pas... Quand t'es dans un projet à 100 bornes, voilà, il va pas s'arrêter tous les 10 km pour s'étirer le fascia, étirer les fessiers, étirer les quadris, faire du renfo, faire ses exos. Alors après, je pense que moi, cette douleur, je l'ai souvent entendue chez des athlètes qui couraient au Kenya parce que les routes sont bombées. Alors est-ce que sur tes premières sorties, première grosse en borne, parce que si tu cours toujours sur le même côté de la route qui est bombée, tu peux créer cette pathologie là, quoi.
Ouais, ça a été un peu le cas d'ailleurs, ça, effectivement, de courir sur une route qui n'était pas complètement plate. Après, de là à dire que c'est vraiment à cause de ça, finalement, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quand même vraiment lié quand même au fait que musculairement, j'étais déjà bien entamé le deuxième jour. Et voilà, et du coup, en fait, quand je ramenais la jambe, au final, les tendons ont reçu parce que les muscles, entre guillemets, n'arrivaient plus vraiment à suivre.
Ouais, non, donc c'est possible. Mais c'est vrai que Johan, tu le donnes souvent ce conseil d'éviter de toujours courir sur une route bombée du même côté parce que sinon vous allez créer un déséquilibre et vous faire mal quelque part.
C'est comme si tu avais une chaussure un peu usée d'un côté parce que tu sais, elle s'affaisse, t'as une jambe qui est plus courte que l'autre. Donc effectivement, c'est un conseil bête. Mais quand tu fais, c'est sûr, si tu fais 100 bornes dans une ligne droite avec une route bombée que tu cours du même côté, ça peut créer le truc. Mais quand tu as ça, c'est pour faire partir ça, c'est très compliqué hein, quand tu as cette douleur-là.
Avec nous en studio, on a Rabat qui t'a accompagné sur tout l'aspect vidéo, réseaux sociaux. Rabat, on le connaît bien parce qu'il accompagne également Dorian sur son projet des 7 majeurs. Salut Rabat, donc bienvenue dans RMC Running. Tu l'as vécu cette période toi aussi, dès le deuxième jour, le coup dur, le coup de bambou psychologique. Quel souvenir t'en gardes, toi, qui faisais partie de la team?
Moi, déjà, en partant dans l'aventure, j'avais conscience que à tout moment, ça pouvait arriver.
Ouais.
Mais que aussi, éthiquement, parce que j'aime beaucoup Duncan, on s'entend super bien et je suis trop content de faire ce projet avec lui. Ça ne m'intéressait pas de faire un projet où je voyais un mec dégringoler du jour 1 au jour 30. Et au bout du deuxième, troisième jour, je lui dis, écoute... Le but, c'est pas de se casser, c'est d'aller au bout du projet, de le faire bien. Surtout qu'on avait tout l'aspect marché,
bien
social.
Sûr. Aller rencontrer les gens au marché, tout ça, visiter.
C'était très important.
Sûr.
Et finalement, on s'est rendu compte que finalement, si même on faisait 100 bornes par jour pendant 30 jours, et ben, tout cet aspect-là, on le jetait en fait. Et ça aurait été dommage. Donc en soi, je pense que ça a été même un mal pour un bien d'avoir cette blessure et même toutes ces aventures-là. Parce que finalement, ça fait une vraie histoire. Ça raconte quelque chose de... Enfin, ça raconte ce qui s'est passé, quoi. Donc,
Et puis ça prouve la difficulté de la tâche et de l'ampleur du défi, c'est sûr.
Ouais, exactement.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un aspect aussi psychologique. Tu vas au-delà de la douleur. Je vois ton jour 3 où tu es à Marseille, tu retrouves des potes, Florian, Nico notamment. Là, ça te revigore un peu et tu cours sans borne le troisième jour. Parce que tu es avec tes potes dans l'euphorie, peut-être que tu oublies un peu la douleur à ce moment-là.
Ouais, j'oublie un peu la douleur, mais aussi je me suis dit, j'ai pris un anti-inflammatoire. Donc ça m'a aidé.
C'est un pansement, ça soigne pas malheureusement, ça efface la douleur temporairement.
Exactement, et du coup en fait ça pouvait pas durer, donc c'était pas la solution. Mais c'est sûr que par contre être avec des gens ça aide, mais le jour où vraiment d'ailleurs je m'arrête complètement, où je me dis oula c'est plus possible, c'est quand je courais avec des gens qui me parlaient, que j'avais tellement mal que j'entendais limite même pas ce qu'ils me disaient.
Ah ouais, carrément.
Ouais, okay. J'en suis arrivé à ce stade-là, justement à la fin de la première semaine.
Ouais.
Et, et c'est là où effectivement on a trouvé une solution alternative pour qui a duré une semaine où j'ai pas couru du tout et après j'ai repris progressivement jusqu'à la fin recourir finalement 100 km là, un peu la dernière semaine. Et comme le disait Rabat, c'est vrai que de base, nous on voulait vraiment qu'il y ait un côté performance, un côté social. Quand je faisais 100 km, 110 km, même 90, en fait, je ne vivais pas le côté social, pas ou très peu. Les marchés, je restais le moins longtemps possible, j'étais épuisé, avec les gens, je ne partageais pas de la même façon.
Ah, oui.
Quand j'ai pu mixer la course à pied avec l'elliptique,
ouais.
Et ben, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps,
ouais.
Et d'avoir ce côté social en fait, qu'on recherchait à travers justement découvrir la France,
bien sûr.
Qui est revenu. Donc en fait, moi, ça m'a permis finalement d'avoir un gros côté performance sur la première semaine et la dernière semaine,
ah ouais.
Et un côté plus social au milieu. Et effectivement, comme disait Rabat, ça a presque rajouté au projet.
C'est la richesse du projet. Tu pars de Grenoble, Montélimar, ensuite tu files dans le sud, tu vas dans le Gard, tu arrives à Biarritz, après tu vas remonter, tu vas aller en Bretagne. L'île d'Oléron, c'est une étape importante.
Ouais.
L'idée de l'elliptique, comment elle vient, les gars? Vous l'aviez prévu? C'était déjà un plan B prévu ou vous êtes adapté?
C'était pas du tout prévu en fait, rien n'était prévu pour moi. C'était j'allais courir de
ouais,
A à Z, je voulais pas me poser la question de la blessure. Je savais qu'elle pouvait arriver, mais je m'étais même pas, j'avais rien anticipé. On en a parlé, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait pour continuer quand même à donner du sens sur le côté performance. Parce que du coup, sur le côté social, on avait ce qu'il fallait, mais on voulait quand même toujours regarder ce côté performance.
Bien sûr.
Et c'est vrai que l'elliptique, c'est le sport des coureurs blessés.
Ouais.
Et moi, je.
Rio
du. Ouais.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Et j'étais le premier à rigoler de l'elliptique au Kenya, à courir dessus et au bout d'une minute m'arrêter.
Ouais.
Julien se foutait de ma gueule par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas faire comme tous les athlètes blessés, finalement, assumer, continuer un petit peu cette aventure et voilà, tout en découvrant quelque chose d'un peu différent. Et finalement, même les gens, il y en a plein qui ont été curieux, qui m'ont dit bah, c'est quoi ce truc-là. Il y en a qui se sont moqués, qui m'ont dit oh, je vais lâcher ma larme avec ta trottinette. Et à l'inverse, il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, j'ai envie d'essayer. Ou, des gens qui m'ont demandé ah, c'est quoi ça? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Enfin, c'est. Ouais, c'est.
Et surtout en gardant ouais, un côté course à pied quand même dans le
mouvement. Oui, dans le mouvement, bien sûr.
C'est important.
Tu n'as pas pris un vélo ou tu t'es mis à faire du vélo, ce qui aurait été un peu...
Tu avais zéro douleur sur l'elliptique ?
J'avais, en fait, l'avantage de l'elliptique, c'est que la jambe, je pouvais la lever à la hauteur que je voulais. Donc au début, ouais. Quand j'avais mal, je faisais plutôt... Donc ça, je travaillais beaucoup plus les mollets et les fessiers.
Ah ouais.
Et je levais moins. Je ne faisais pas de l'elliptique en levant haut les jambes. Je faisais l'elliptique de façon assez limite en mode travail de pied.
Pas ouais, pas très net un peu.
Ah,
ouais, exactement. Assez avec peu d'amplitude.
Ouais.
Et donc, ça me faisait pas mal. Et après, progressivement, quand je récupérais, je pouvais mettre un petit peu plus d'amplitude.
Ok.
Et c'est vrai que ça se rapproche quand même beaucoup de la course à pied, ouais, en termes d'effort. Donc...
L'elliptique, c'est très chiant en salle. Est-ce que c'est chiant en nature aussi?
Alors, c'est chiant, oui. Ça, je préfère, je pense, faire du vélo. mais non, c'est quand même plus ludique. Déjà, parce que bah, moi, je visitais des coins de la France où j'étais jamais allé. Donc, je vois des paysages.
Ouais.
Et en plus de ça, parce que j'étais accompagné.
Ouais,
et parce que je vivais un projet, j'étais sur un défi. Donc, en plus, j'étais un peu toujours quand même dans ma bulle. Même si je pouvais plus courir, pour moi, j'avais pas perdu.
Ouais. C'est bien d'avoir gardé le moral comme ça d'ailleurs, et ton équipe a dû être importante dans ces moments-là. Mmh. Avant de parler de l'aspect social, l'aspect entre guillemets esthétique, découverte, carte postale, tu as vu la France en profondeur parce que tu es passé par tous les chemins, les routes nationales, etc. Tu t'es régalé, t'en as
pris. Il a évité le centre. Hein.
Ouais, il a évité le centre. Le No Man's Land, il n'y est pas allé.
Le No Man's Land, il n'y est pas allé. Hein.
Il a fait les côtes comme ça, mais ouais, ça c'est sûr qu'il y a des régions.
Il est resté en bord de mer.
Voilà,
hein.
Les Castelroussins t'ont pas vu, quoi.
Ouais, on ne pouvait pas tout faire.
Non, mais c'est, t'en as pris plein les yeux pendant.
Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, déjà j'en ai pris plein les yeux, mais en plus de ça, j'ai l'impression aujourd'hui vraiment de connaître la France.
Ouais.
J'arrive à situer à la majorité des villes, effectivement. Pas du centre, mais du Tour de la France. J'arrive à un petit peu... J'ai vu un petit peu comment même se comportaient un peu les gens selon les régions de France. J'ai pu voir un petit peu... Même les athlètes, un peu chaque personne où ils habitaient. C'est... Non, c'est...
Oui, il y a des mecs que tu connais, que tu côtoies, mais que tu n'as jamais vu dans leur environnement.
Chez
et là,
eux,
que tu les as vus chez eux.
Ouais, c'est ça. C'est quand même amusant de voir dans des endroits paumés certains athlètes.
Ouais.
Donc c'est vrai que non, c'était au niveau découverte, au niveau apprentissage, au niveau culturel, c'était hyper, hyper enrichissant.
T'as eu de la pluie pendant les 30 jours?
Juste en arrivant en Bretagne. on passe, ouais, bah, on arrive en Bretagne. Non, mais franchement, c'est une caricature
c'est
du truc.
C'est comme un péage, hein, ouais. La pluie, elle démarre comme ça. Ouais.
En plus, on arrive en Bretagne. Donc là, justement, c'est le passage en plus. Donc, quand j'étais blessé, souvent, je faisais un semi-marathon ou un marathon. Et après, je refaisais une partie le soir. Et au milieu, je faisais de l'elliptique.
Ouais.
Et là, en Bretagne, je prends l'elliptique. Et là, j'étais justement, il y avait Rabat qui m'accompagnait avec le vélo, avec sa caméra. Et là, on se prend une rincée, mais en passant le panneau de la... En passant la Bretagne.
C'était bienvenue chez les ch'tis, quoi. C'est ouais, caméra qui arrive, ouais. Voilà, le mur d'eau, quoi. Incroyable.
Juste la gendarmerie qui vous tombe dessus.
Ouais, c'est ça.
Et deuxième coin où on chope une énorme rincée. Alors là, encore plus surprenant. Il y a justement à la fin, là, le 30 juin ou le 1er juillet.
Ouais.
Donc, grosse canicule toute la journée.
Ouais.
On va jusqu'au Grand Bornand. Ouais. C'est à une partie de l'histoire qui est avec mon papy et qui vient de là-bas. Ouais, donc, on a fait l'étape Chambéry-Le Grand Bornand.
Ouais.
La journée, il a fait jusqu'à, je crois, 38 degrés. On arrive vers le Grand Bornand, grêlon. Il se met à pleuvoir des cordes.
Ouh là
et la température est descendue à 19. Et la pluie était vraiment froide. Et on se retrouve à passer d'un énorme coup de chaud à vraiment froid
lunaire,
et
une
ouais,
lunaire,
éclair, ouais. Enfin vraiment au milieu d'une énorme averse, ouais. Et ça a contrasté la journée. Je me suis dit, mais en fait, moi, c'est soit je me retrouve au milieu de la canicule et il fait hyper chaud,
ouais.
Soit à l'inverse, je me retrouve à me prendre des grêlons dessus. C'était improbable.
L'aspect populaire du défi, il y a tout le côté positif, tous les gens qui t'ont accompagné, etc. Il y a aussi les réseaux, j'imagine. Tu as dû prendre quelques critiques. Est-ce que tu l'as mal vécu ?
En fait, là, pour le coup, je ne l'ai pas mal vécu. Je me suis dit, maintenant, les critiques, effectivement, ça fait partie du truc. Donc, mais pour autant, je me suis dit, allez, vas-y, je réponds aux gens.
Ah, t'as répondu ?
Ouais, on m'a dit, ouais, il ne faut pas répondre aux critiques.
Ouais.
Moi, je me suis dit, non, en fait, j'avais envie de leur dire un peu aux gens que je pensais, ceux qui critiquaient. Il y en a plein, en fait.
C'est une réponse à la Duncan, hein. Nous, on te connaît tous, vu comme t'es sympa, t'as dû insulter personne quand même.
Ouais, moi, je suis capable, je suis capable d'être dur. Hein.
Si ah ouais,
y a un
quand
conflit,
même.
Je suis capable. Ouais, il y a le moi de la vie de tous les jours et le moi quand je ne suis pas content.
Ok, d'accord, quand même.
Mais pour autant, là, non, c'était. En fait, les gens, des fois, disent des choses sans même savoir le fond du truc. Les gens, il y en a plein. Le côté social, ils ne l'avaient pas vu. Ils ne comprennent pas. Même, ils m'ont trouvé... pareil, un truc qui est revenu un peu, c'est l'arrogance. Et moi, je leur ai dit, mais les gars, entre guillemets, si je n'essayais pas de faire des trucs qui étaient de base trop difficiles pour moi, eh ben, je pense que je n'aurais jamais fait même 2h09 sur marathon.
Bien sûr,
parce que je trouve que c'est en se mettant des défis qu'on ne peut pas réaliser qu'on finit au bout d'un moment par les réaliser.
Mais
alors
exactement.
Certes, tu vas rater. Et le truc, c'est que moi, vu que je suis du genre à assumer un peu les choses et à les dire, et ben au final mes échecs on les voit, donc en fait vu qu'on les voit je vais me faire critiquer, mais pour autant ça m'empêche pas d'avancer.
Non, mais c'est encore mieux de les assumer et ça c'est une bonne stratégie d'ailleurs, Johan, hein. C'est vrai qu'on passe tous, quels que soient les défis qu'on se lance, par des échecs pour finir par réussir, quoi.
Ouais, non, mais t'es obligé de pour avancer, pour atteindre les étoiles, tu es obligé de viser haut et de tenter des choses. Et c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv des sportifs de haut niveau, c'est de toujours, c'est ce qui nous fait lever le matin, tu vois, c'est de se lancer des défis et de se dire, je peux encore courir, même moi, tu vois, mon objectif, c'est de courir encore 2h10. Peut-être j'y arriverai pas et des gens vont te dire, à 40 ans, qu'est-ce que tu veux faire? T'es trop vieux pour la course, tu vois. Mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait lever le matin et ce qui me fait m'entraîner. Et c'est vrai que tu as certaines personnes qui peuvent prendre ça pour de l'arrogance ou de se dire « Ah non, mais tu vois, il n'y arrive pas, machin. » ça, c'est des gens qui sont derrière leur ordi et qui ont que ça à faire. D'un camp, il s'est lancé le défi. Même si tu n'es pas d'accord avec son défi, laisse-le tranquille. Tu vois,
exactement.
C'est vrai que c'est le problème des réseaux sociaux, quoi.
Ouais. Tu as eu envie d'arrêter, parfois ?
Là, pendant l'événement ?
Ouais.
Pendant les 30 jours ?
Ouais.
Surtout la dernière semaine. Donc je me retrouve à arriver à Lyon à faire 100 km. Le lendemain, je repars au bout de 6 km, mais je suis épuisé. La veille, je m'étais hydraté de malade. Il a fait hyper chaud. Le lendemain, je pars. Je sens que vraiment mon corps est fatigué.
Ouais.
Et là, pas une zone d'ombre. Et je me retrouve à taper toute la journée.
Canicule,
et j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à me retrouver sous les arbres. Je me retrouve à traverser Lyon et après, soleil. C'est ce que je me. Enfin, aujourd'hui, tu vois, je vais repas quand je repartirai sur une prépa marathon. Mais je vais me dire, mais c'est facile. Honnêtement, c'était tellement dur. En fait, ce que les gens réalisent pas aussi, c'est que malgré le fait qu'au milieu, j'ai fait une partie en elliptique. Déjà, cette partie-là, je me retrouvais quand même à faire des semaines à au moins 30, 40, 50 heures de sport.
Bien sûr.
En plus de ça, la dernière semaine, j'ai fait effectivement 667 km sur les 8 derniers jours avec 5 jours de canicule. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Franchement, moi, je suis presque... Je pense que, en tout cas, mentalement, je suis plus fier de ça que d'avoir fait 2h09. Je pense qu'en termes
de... Ah, vraiment ?
Ah oui. Ah, bah, pas en termes de performance, parce qu'au final, je n'ai pas atteint mon objectif. Mais en termes de difficulté, franchement, c'était hyper dur. Rien que de courir, je pense, une heure ou deux heures sous 38 degrés.
Ah non, mais c'est
je pense
sûr.
Que c'est dur pour tout le monde. Moi, c'était du matin au soir, c'était 10 heures. Ouais. Le soir, j'allais me coucher, le lendemain matin, je repartais. Et sachant que nous, en plus, moi, j'étais quand même avec l'équipe, l'idée, c'était que ce soit authentique. C'est moi qui écrivais un peu la légende pour les réseaux sociaux. Ouais. Moi, tous les soirs, entre guillemets, j'arrivais, t'avais j'allais pas me coucher, ouais, j'avais du taf.
Ouais.
Et c'était vraiment énormément de travail. En fait, j'essayais d'optimiser, je faisais une sieste un peu quand je pouvais, mais c'était, j'étais tout le temps au bord de la limite de la rupture. Quand je suis en prépa marathon, moi j'ai l'impression que presque qu'une prépa marathon c'est facile, hein. J'ai l'impression que faire 240
km.
Je sais, bien sûr, bon, on te connaît, hein. On se souvient des défis que tu te lançais avec Mehdi, celui qui allait courir le plus, et l'un qui profitait de la sieste de l'autre pour aller faire 10 km en plus. Ça, c'est sûr, on se souvient de tout ça, mais Rabat, ça va être ton enjeu à toi, ça va être de retranscrire tout ça. Le récit, c'est bien, les photos, c'est bien, l'image, c'est beaucoup plus fort. Donc là, quand vous allez sortir les vidéos, on va se rendre compte des difficultés qui ont été rencontrées par Duncan sur ce défi.
Exactement, en fait. Enfin, pour moi, il est là tout le défi. Déjà que pendant 30 jours, en fait, moi, ma mission, finalement, c'était de retranscrire au mieux ce qu'on vivait. Et c'était tous les soirs, comme disait Duncan, on se posait jusqu'à 21h, 22h et on essayait de raconter la journée avec un peu d'originalité, avec un peu de social, un peu d'émotion. Et effectivement, après nous, une autre histoire commence pour nous parce que là, il y a un documentaire qui va être en préparation et on va commencer le montage fin juillet pour essayer de sortir ça dans l'automne. Et l'idée, ça va être vraiment de raconter ça de façon poétique, de façon... de façon réelle, en fait, ce qu'on a vécu et de montrer aux gens, en fait, de passer un message de... par rapport à toutes les choses qu'on est en train d'évoquer, à la combativité, à toujours croire en ses objectifs, à toujours, même si ça ne se passe pas comme prévu, en fait, faire en sorte qu'il y ait des retombées derrière et qu'on arrive à se relever. Franchement, là, on en discutait avec Duncan, mais pour nous, c'est une réussite parce qu'on a réussi à allier un peu tous les aspects d'un projet sportif et social et culturel. Et je pense qu'on en sort grandi et je pense que c'est une... En tout cas, moi, c'est une de mes plus belles expériences de ma vie, voire ma plus belle expérience.
Ah, toi aussi. Alors toi, t'as vécu aussi des trucs, t'as accompagné des athlètes dans des défis et tout. Toi aussi, tu resteras marqué par cette aventure.
Ah bah oui, je suis marqué. En fait, chaque défi, chaque expérience est différente.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, cette expérience-là a sa propre magie, en fait.
Ouais, bien sûr. Parce que Duncan, il est toujours identifié comme quelqu'un d'atypique, mais nous qui le connaissons bien désormais, c'est surtout quelqu'un de très humain.
Exactement.
Et c'est touchant, Duncan, tu as toujours envie d'être son pote et de l'avoir à côté de toi, en fait. Parce que il n'y a personne de mieux que Duncan pour partager une aventure de 30 jours comme ça.
Bah c'est exactement ça.
Et est-ce que ça vous a renforcé les liens humains, j'imagine, au-delà du succès populaire des gens qui t'ont accompagné?
30 jours dans le même camping-car, ouais, mais ça doit être beau.
C'est sûr, je pense qu'on n'a jamais été aussi...
C'est des personnes avec qui tu étais proche, il y a eu ton frère et tout, mais ça a dû encore plus vous souder, quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Ouais, on n'a jamais été autant amis qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais oui, en plus pendant 30 jours, c'est pareil. Enfin, moi j'étais à 100%, mais l'équipe aussi. Enfin, Rabat, je sais pas si la qualité des réels, visuels étaient magnifiques et tous les jours il devait se renouveler. C'était en fait, et puis il y avait l'équipe qui était là pour faire en sorte justement niveau ravitaillement que tout se passe bien. En fait, c'était tout le monde a travaillé 7 jours sur 7 pendant 30 jours.
Ouais.
Donc rien que ça nous a indépendamment même du fait de dormir vraiment serré pendant rien que le fait qu'on a tous vécu un truc très intense et difficile pendant 30 jours, qu'on a été à la fois content de le vivre mais à la fois soulagé que ce soit fini, rien que ça nous a rapproché.
Moi, j'aimerais le faire avec toi, Yodu. Le problème, c'est que tu es un trop gros dormeur. J'ai pas envie de te réveiller tous les matins. taper comme ça ou secouer ton pied parce que tu te lèves pas, non, ça va me fatiguer au bout de deux jours.
Voilà.
Donc,
moi, je me lève pas avant 10h. Hein.
C'est ça le truc.
Et quel est le meilleur marché alors?
Voilà,
c'est où
ça.
La meilleure ville pour bouffer?
Voilà. Alors, le meilleur marché.
Et le pire après. Hein.
Ouais, bon, on va commencer par
le pire.
Le meilleur, c'est le marché de Vannes.
Ouais, je suis d'accord.
Le marché de Vannes,
d'accord.
Dans le golfe du Morbihan, en Bretagne.
Ouais, ok.
Ouais,
il y avait une halo poisson qui était incroyable. Wow. En plus, moi, ça m'avait surpris. Il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient.
Okay.
C'était carrément que des jeunes et ça m'a même surpris. Je me suis dit, ok, ça, c'est quand même stylé de travailler dans un marché le matin. Il faisait beau, en plus, il faisait beau le jour-là.
Ouais.
Donc, ouais, et c'était vraiment sympa.
Et ouais, ouais, t'avais d'abord effectivement tout ce qui était poisson qui était un peu, un petit peu dans une halle en intérieur, donc un peu rafraîchi. Donc, tu sentais que les produits, ils allaient rester bons. Tu sortais juste dehors, t'avais tous les fruits, les légumes. Il y avait une deuxième halle derrière, il y avait énormément de monde. Ça brassait, c'est juste à côté du port. C'était vraiment toute une ambiance, vraiment, ouais. Ouais, c'était...
Vous arrivez à ressentir le caractère d'une région quand vous traversez un marché ? La différence ouais. entre le sud-ouest, la Bretagne, la Normandie, le sud-est.
Le nord.
Le ouais, nord. Après, c'est un tout, c'est pas que à travers les marchés, même rien qu'en courant, tu as certains endroits ou certaines régions où on va être hyper respectueux, par exemple des coureurs, où dès que tu es un passage piéton, on va te laisser la priorité.
Ouais.
Et tu as des régions où, à l'inverse, on
Après,
va tout faire pour
Paris,
ne pas te la laisser.
C'est pas dans le sud. On veut
c'est
t'écraser.
Ni à Paris, ni dans le sud.
Bah voilà, ouais, effectivement. Ouais.
Le pire, c'était Marseille, je pense. À Marseille, c'était lunaire.
Ah, ah, ouais.
On est rentré dans Marseille. Mais c'est bon, moi j'adore Marseille, hein, ouais, ma ville. Mais quand on arrive à Marseille, c'était n'importe quoi. Ça roulait de n'importe où,
ouais.
Et de la musique de partout. Tu traversais pas, enfin, c'était incroyable.
Ouais, tu sens qu'un coureur, t'as moins ta place effectivement à Marseille que bah, même que de la région d'où je viens, pour le coup, qu'en Rhône-Alpes.
Le succès populaire, les gens qui t'ont accompagné, ça t'a touché tous les jours de voir des gens te rejoindre Ah, salut,
ouais.
Nathan, j'ai vu ton défi.
C'était assez inattendu, en fait, au début, qu'il y ait autant de personnes que je ne connaisse pas qui viennent juste pour courir quelques kilomètres. Il y en a qui prenaient la voiture, ils faisaient 20 km, 30 km de voiture, ils venaient pour faire juste quelques kilomètres avec moi. Enfin, c'était vraiment pour accompagner, pour soutenir, plus que pour eux, au final, faire un entraînement, parce que je courais doucement, ouais, ça faisait pas. Et ouais, j'ai été surpris qu'il y ait autant de personnes qui accompagnent, des personnes qui sont proposées à faire le ravitaillement, qui ont accompagné même à vélo quand je courais, donc qui acceptaient de faire du 10 km/h sur leur vélo.
C'est génial, ça.
C'est en Camargue. On se retrouve à avoir, à un moment donné, une personne qui arrive, un kilomètre plus loin, une autre personne, un kilomètre plus loin, une autre personne, un kilomètre plus loin, une autre personne, un kilomètre plus loin, une autre personne. Et on s'est dit, genre, on s'est retrouvé à avoir 5 ou 6 personnes.
C'est même pas scénarisé, c'est-à-dire
qui
chacun...
ne se connaissaient pas.
Ah, c'est ouf. Ah, ça, c'est ouf.
Qui arrivent à peu près tous les kilomètres.
Ah, ça, c'est
et
ouf.
On s'est dit, mais ça faisait un peu à la Forrest Gump.
Ouais,
et
ça,
je me suis dit, bah bon, j'étais pas du tout parti. Ouais. je sais pas, mais. Mais j'étais pas du tout parti là-dessus. Moi, je m'étais dit, oh, bah, s'il y a quelques personnes qui accompagnent, c'est cool, mais.
Nous, on a vu des potes, hein, quand tu étais en Alsace, Eric, qu'on avait accompagné sur la prépa de 10K, on a vu qu'il t'avait accompagné. Enfin, y a plein d'histoires comme ça. Les gens ont été touchés par le message aussi, quoi. Puis comme le Tour de France, on te voit passer, on a envie de te suivre.
Et puis, du coup, tu cours. Moi, je courais, du coup, c'est des journées de 10 heures à courir. Et ben, en fait, justement, ça aide à passer plus vite. Mais en fait, tu te retrouves à parler avec des gens pendant des heures. Et une personne que tu ne connais pas, à parler pendant une heure et demie avec cette personne, c'est des trucs qui t'arrivent pas dans la vie de tous les jours.
Ça,
et en fait, là, tu es dans un tel contexte qu'au final, tu te retrouves à vraiment découvrir des gens que tu connaissais pas. Donc,
Est-ce que quand tu es tombé sur un relou, tu as eu envie d'accélérer pour le semer ? Ou non, c'est pas arrivé.
Ouais, il y a eu quelques personnes où c'était un petit peu plus compliqué, effectivement, qui étaient trop.
Rabaïsme.
Dans
les souvenirs en tête.
Qui voulaient pas forcément partir à la fin, qui voulaient rester au camping-car. Il y a toujours un peu quelques personnes où c'est un peu particulier, tu sais pas comment leur dire de partir, que toi, tu as des trucs à faire. Mais bon, voilà, après, dans l'ensemble, c'était beaucoup de personnes hyper bienveillantes et qui étaient là pour pousser les projets vers le haut.
Est-ce que tu as constaté la force de frappe d'RMC Running ? Est-ce qu'on est venu lié
au podcast,
des ostéos, des kinés ?
Incroyable.
Donc on demandait souvent aux gens, et surtout Rabat, où c'est son boulot, savoir un peu comment ils avaient découvert le projet. Et je pense que le plus de personnes qui nous ont dit, c'est RMC Running.
Voilà,
j'avoue que j'étais, je pensais pas que vous étiez...
C'est abusé, en vrai. Voilà. Moi, j'étais surpris. Oh, j'ai eu le podcast sur RMC Running.
Ouais.
Bien RMC.
Ouais.
Bien les gars.
Non, mais moi, il n'y a rien qui me régale plus que les gens qui n'appellent plus Johan. C'est Maître Yodu.
Maître Yodu.
En fait, il n'existe plus, Johan. Et ça, c'est ma victoire.
La secte Yodu.
Ah ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça.
Exactement.
Il n'y a plus de Johan Dior.
En termes de carte postale, l'endroit le plus beau que vous ayez vu, qu'est-ce qui vous a régalé ?
Moi, j'ai donc deux endroits.
Marle-Duc.
C'est chez Félix Bourg.
J'aime beaucoup la Camargue.
Ouais.
Donc la traversée, comment ?
T'as vu des chevaux ou pas ?
J'ai vu des chevaux, oui. Ouais. Mmh. Mais même les parties même plus paysages entre les marais,
ouais.
Ça c'était vraiment joli.
L'île d'Oléron, ça t'a plu, je crois.
Et l'île d'Oléron, ouais. Ouais, l'île d'Oléron, en fait, je pense que c'était l'endroit qui était pour moi le plus dépaysant. Déjà, je ne connaissais pas du tout. Mmh. Et en plus, ouais, il y a plein de petites maisonnettes de couleurs différentes, une ambiance un petit peu différente. Tu as l'impression de ne pas être en France. Et effectivement, t'es sur une île, quoi. Donc,
ouais.
Non, je ne savais même pas, tu vois, qu'on avait une île en France hors... Corse, qui était aussi grande.
C'est la deuxième plus grande après la Corse.
Ah bah ouais, je savais même pas.
Ah, c'est sûr. Le périph parisien, ça t'a plu aussi, apparemment.
Ah,
entre la
tout,
porte
ça,
de Champéret, ouais, et la porte de Clignancourt.
Ouais, je me suis dit, l'ambiance dans Paris, le départ dans Paris du stand justement au Cal le lendemain matin était vraiment cool.
Ouais.
Et donc ça, c'était top. L'arrivée à la Tour Eiffel était vraiment sympa aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est vrai que la traversée de Paris, on s'en souviendra, mais pas forcément parce que c'était l'endroit le plus sympa, quoi.
Ouais. Comment on digère un truc pareil, mentalement déjà?
Mentalement,
où,
l'avantage c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours pas fini tout ce que j'avais à faire.
Oui, voilà,
donc
d'accord.
En fait, pour l'instant, entre guillemets, mentalement, je suis hyper occupé, je suis surchargé de choses. J'ai 15 000 trucs à faire, je fais que décaler au lendemain parce que j'ai pas le temps de les faire le jour même.
Ouais.
Donc pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'y penser. Et sinon, bah non, tout simplement en coupant un peu avec la course à pied. Mais de toute façon, j'ai tellement d'ampoules aux pieds et j'ai les jambes tellement coupées que j'ai pas très envie de courir, mais juste un peu en profitant même des instants où je me dis waouh, je suis pas obligé de partir courir parce que tout était timé. C'était je mangeais mon repas du midi en plein cagnard, je pouvais manger du poulet, du fromage, 10 minutes après j'étais reparti courir. Alors que tu es en pleine digestion, ta tête a pas envie, ton corps a pas envie, mais t'y vas quand même.
Ouais, non, c'est sûr.
Et là je me dis, ben chaque, tu vois, rien que le fait de s'asseoir, rien que le fait de discuter, rien que le fait de me dire je suis pas obligé de courir, et ben en fait je profite un peu de chaque instant.
Ouais, je pense à tes journées de 7 heures en plein cagnard alors que nous on avait du mal à sortir 5 minutes. Ouais, c'est une épreuve de vie très très difficile.
Mais apparemment la chaleur pour progresser c'est aussi efficace que l'altitude.
Que l'altitude.
Donc
ouais.
C'est
vrai,
ouais, ouais, apparemment c'est.
Mais
c'est
des fortes chaleurs. Hein.
Ah, ouais. Ah bah là je les ai eu, les fortes chaleurs. Donc
je préfère aller courir à Valto l'hiver que en pleine chaleur. Je pense, mais
ouais, c'est sûr. Oui, mais moi, du coup, je l'ai fait maintenant.
Ouais, du coup, tu l'as fait.
Donc, mais peut-être que niveau adaptation physiologique, peut-être que je vais revenir encore plus fort sur marathon.
Comment ont réagi tes sponsors sur la façon dont s'est déroulé le défi?
Pardon, j'ai pas.
Comment tes sponsors ont réagi? Est-ce qu'ils ont été régalés par l'aventure humaine? Est-ce que il y a ce petit côté reproche de la performance sportive n'a pas été aboutie? Non, comment ils t'ont accompagné là-dedans?
Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler avec tous.
Ok.
Mais de façon générale, en fait, eux, ils suivaient beaucoup aussi à travers les vidéos.
Ouais.
Et ils trouvaient que le contenu était enrichissant. Et, de façon générale, j'ai eu beaucoup de retours positifs.
Ouais.
J'en avais besoin un peu en plus le soir,
oui, sûr,
parce que c'était difficile. Donc, c'était agréable d'avoir des retours positifs. Mmh. Et puis même, forcément, quand tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux, tu peux douter un petit peu, tu vois. Donc, le fait qu'on te dise, bah, non, c'est bien, continue, trouve d'autres solutions. Non, les sponsors, comme les gens de façon générale, m'ont énormément encouragé dans ce projet, malgré la blessure, malgré le fait que l'objectif de base que j'avais complètement dit, assumé, n'a pas été réalisé, au niveau juste performance en tout cas. Et non, ça a été très encourageant. Après, comme je te le disais, j'ai pas eu le temps de tout faire
encore
aujourd'hui. Donc j'en ai pas encore énormément discuté avec tous les sponsors, mais de façon générale. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que nous, le projet là, il est pas terminé. Pour nous, la première étape est terminée.
Bien sûr.
La deuxième étape, c'est pour ça que
là, Rabat
est là. C'est surtout Rabat, mais moi, je vais
à toi de jouer, mon vieux.
Ouais, mais moi, je vais avoir à écrire un petit peu.
Ah, bien sûr.
Pour donc voilà, mais c'est vrai que
on va le faire ensemble finalement, parce que je veux dire, moi je vais avoir tout le côté technique, montage, mais après il y a tout le storytelling et les souvenirs
bien
et
sûr.
L'écriture. Là, tout à l'heure, on est rentré dans le train, il a commencé à écrire des choses
bien
qui
sûr.
Peuvent potentiellement se transformer en voix off pour le docu. Donc je pense qu'il va y avoir tout un travail de souvenirs, comme tu dis, qui va opérer jusqu'au mois de septembre.
Et il faut pas trop tarder pour regarder souvenirs frais dans ta tête.
Exactement.
Ouais. Moi, les 3 heures de train là, par exemple, pour venir à Paris, j'ai écrit pendant 3 heures.
Ah, il faut, c'est important. T'as raison. Johan, quel est ton regard sur toute cette aventure? Si on fait le bilan comme ça, est-ce que t'es fasciné, impressionné? Comment tu
vois? Ouais, je trouve ça beau, et c'est vrai que je rejoins Rabat dans le sens où le fait d'avoir été blessé lui a permis de davantage s'ouvrir sur ce côté social et sur ce côté marché, parce que c'est vrai que en fait quand tu cours pendant 10 heures, tu cours pendant 10 heures mais avec les pauses et tout, c'est t'es sur la route pendant 14 heures. Bien et sûr, du coup effectivement je pense que Duncan aurait pas profité de la même façon que s'il avait pas eu cette pathologie. Donc moi je vois toujours un peu le verre à moitié plein, tu vois, c'est-à-dire que effectivement il s'est blessé, il est pas allé au bout du record du monde de kilométrage, mais par contre il a vécu des moments, il a vécu des expériences, il a vraiment profité au max du marché, du côté social, et du coup je trouve que le truc il a d'autant plus de sens dans l'histoire, quoi.
Il y a eu des moments durs, des endroits moches où tu t'es dit wow, c'est long la journée là, on n'a rien vu de sympa.
C'était plus non, franchement ce qui était dur c'était souvent quand même vraiment la douleur physique.
Ouais, vraiment.
Moi quand après effectivement on a eu un petit passage quand même pas très agréable, un petit passage d'autoroute où on s'est gouré, forcément on se fait klaxonner par les voitures et on se fait escorter jusqu'à la sortie suivante par la gendarmerie.
Attends, t'as couru sur l'autoroute
d'ailleurs? Là j'étais en elliptique. Non, j'ai quand même pas couru, j'étais en elliptique.
Il était avec son vélo. Il y a un réel sur ça.
Tu roules à 130, tu le vois, tu dis mais qu'est-ce qu'il fout avec son elliptique.
D'ailleurs, c'était en Bretagne, c'est pas des autoroutes.
Ouais, ils ont dû. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on s'est un peu trompé.
Ah, c'est les deux voies, d'accord.
Ouais, mais bon, voilà, où ça roule à 110 km/h, tu te fais klaxonner, c'est vraiment désagréable. Et surtout moi en plus vu que j'étais blessé même au pied, j'avais une seule chaussette à un pied, pas de chaussette à l'autre pied, sur un vélo en elliptique.
Le gendarme il a dû se dire
une sorte que c'est
ils nous regardaient bizarre, les gendarmes. Ils nous regardaient bizarre.
On les salue. Banane avec un tracker, enfin c'était vraiment n'importe quoi.
Que ce mec.
Et d'ailleurs un petit mot d'ailleurs pour les gendarmes, parce que j'ai eu mon coach et très bon ami Faustin qui m'a dit, on a fait sur la vidéo, on a eu une petite touche d'humour en parlant de poulets qu'on a vu au marché le matin et en parlant des poulets par rapport justement à la gendarmerie, qui est d'ailleurs normalement plutôt pour la police, mais et voilà, qui m'a dit que eux ils avaient pas très bien pris ce réel et que ils l'avaient pris de façon un peu dégradante par rapport à la façon dont on parlait de la chose. Donc c'était pour dire que moi c'était hyper respectueux vis-à-vis des gendarmes. Moi j'ai été militaire en tant que coureur pendant plusieurs années et j'ai adoré ça, et vraiment je m'excuse auprès des gendarmes pour le coup si j'ai pu en heurter pas mal, parce que c'est ce que j'ai entendu, et des fois on peut faire des choses qui peuvent toucher certaines personnes en bien, en mal, mais sans s'en rendre compte. Et voilà.
T'es un amoureux de la course à pied, tu sors d'un défi extrême, cet amour pour la course à pied il a grandi, il est différent, c'est trop tôt pour le dire, comment tu le juges?
Alors aujourd'hui, forcément, vu que c'était dur, j'ai la course à pied. Là, je suis sur une phase où je suis plutôt un peu dégoûté
un peu
de la course à pied, forcément.
Dégoût,
mais je pense que tu en as besoin. Et puis des fois, même après une prépa ou après des moments difficiles, ça arrive aussi. Et je savais que ça risquait d'arriver.
Ouais.
D'ailleurs, même avant, je voulais penser le moins possible à la course à pied, parce que je savais que courir 100 km, ça allait être dur.
Ouais.
Mais pour autant, j'ai découvert un peu une difficulté et une fatigue un peu. Je suis allé un peu dans des retranchements, dans des filières presque que jamais vécues.
C'est un nouveau levier activé.
Exactement, me donne un peu cette impression-là et que ça peut un peu me désinhiber, tu vois, me débrider un petit peu pour mes prochaines prépas. Et moi, je pense toujours au marathon parce
400
que c'est
bornes de prépa en semaine, tu vas y aller maintenant.
Ouais.
Non, mais tremble, sans ça, Nico Navarro.
Non, mais même rien que de se dire, bon, en vrai... je suis fatigué, mais bon, c'est pas grave.
Ah bah t'as repoussé tes limites, donc forcément tu sauras que t'as un nouveau seuil d'acceptation peut-être.
Ouais. Et du coup, j'aurais forcément moins peur.
Ouais.
Et là, t'as plus de douleur.
Si. Et là, j'ai.
T'as encore mal là.
Ouais. Le tendon, il est pas guéri. En fait, j'ai pas eu énormément d'autres douleurs. En fait, les autres douleurs, quand j'allais me coucher le soir, j'avais quand même mal un peu partout. Même au niveau un peu articulaire,
le dos, le cou, non, tout ça, non?
Non, au niveau des jambes. Ouais. Au niveau des jambes jusqu'au haut du bassin, jusqu'au sacrum, jusqu'au bas du dos.
Ouais,
d'ailleurs, c'était aussi un problème, ça, c'était que j'avais pas anticipé, c'était le sommeil à cause de la douleur. J'arrivais pas à dormir.
Tellement mal que tu n'arrives pas à t'endormir.
Ouais. Alors le tendon, quand j'avais trop forcé dessus, ça c'était carrément, j'en parle même pas. Mmh. Mais même indépendamment du tendon, en fait, quand tu cours sur du bitume toute la journée, le soir, t'as vraiment mal. Des fois, tu t'en rends pas compte à chaud, mais en fait, tu te couches, tu t'allonges, en fait, t'as du mal à dormir parce que ton cerveau, il te rappelle toutes ces petites douleurs.
Je te parlais de ta relation avec la course à pied. T'as envie de rebasculer en mode athlète de haut niveau et perf là, ou tu penses déjà à d'autres défis?
Non, moi, je veux rebasculer. C'était déjà l'idée de base. Pour moi, c'était de courir un marathon, si possible en octobre, si j'ai récupéré. Et voilà, comme.
En décembre, quoi.
Et au pire en décembre ou décembre ou février. Mais aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, je suis convaincu que je suis capable d'aller me rapprocher des 2h06 sur marathon. Donc, je veux me donner la chance d'essayer au moins. J'ai couru 30 km sur ces bases-là à Séville. J'ai quand même finalement fait quand même 2h09 à la fin en craquant quand même sur la fin de course.
Et puis, Yodu l'a dit, tout le monde l'a dit, t'as fait une prépa du tonnerre, quoi. T'étais très en forme et impressionnant l'entraînement. Donc, il n'y a pas de raison.
Ouais, voilà. Donc, je pense que si je suis capable d'aller faire 2h06, 2h07, ce serait dommage de partir juste sur des défis d'aventure. Moi, ce que j'aime, c'est varier, c'est pas juste faire de l'aventure. Ouais, j'aime un peu tout dans la course à pied, quoi.
C'est ça. C'est peut-être une respiration qui sera, entre guillemets, salvatrice pour la suite, quoi, qui va te permettre de te refocuser sur...
Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour de marché 2.
Sans doute, t'inquiète.
Ou quelque chose, j'ai quand même à la fois une petite revanche à prendre niveau performance et d'autres choses à découvrir.
Avec moi.
Et déjà avec moins d'erreurs. Parce que pour moi, la meilleure façon en fait, de préparer ce projet, c'était de le faire. Parce que c'est quelque chose tu peux pas en fait c'est à l'entraînement tu vas pas te taper en fait 5 fois 100 km. Donc la seule façon de découvrir certaines erreurs qu'on a fait, mais même au niveau des ravitaillements, au niveau des pauses, au niveau de la façon de me nourrir, parce qu'au final comment tu vas te nourrir une fois ou sur 100 km, ça va pas être pareil qu'au bout de une semaine, 10 jours, 15 jours. Sûr. Et voilà, et là aujourd'hui j'ai vraiment appris, même l'équipe a appris. Eux ils peuvent améliorer plein de choses pour qu'on optimise.
Surtout Rabat d'ailleurs.
Rabat aussi au niveau lui, c'est pour ça aussi qu'il a appris beaucoup de cette expérience. Il me disait faire des vidéos comme ça avec où il faut un peu retracer toute une journée.
Bien sûr.
Et qu'il doit faire ça tous les jours.
Point de vue édito, c'est.
Ouais. Et niveau timing aussi, hein. Parce que du coup, moi, j'arrivais quand même le soir, et il avait un timing pour après poster la vidéo qui était hyper courte.
Et surtout, le plus dur, c'était dans le camping-car avec tous les objets qui te tombent dessus toute la journée, le camping-car qui doit se garer, qui fait chaud, t'as envie de dormir, et tu dois quand même te mettre au montage. Enfin, c'est des conditions très extrêmes pour travailler et faire de l'édito. Mais effectivement, comme tu dis, aujourd'hui là, j'ai découvert des choses comme toi. J'étais poussé dans des retranchements et je pense que c'est que salvateur et positif pour la suite, quoi.
Et félicitations les gars, Duncan Pereira, ce magnifique défi. Vous allez retrouver en vidéo un doc qui va sortir le plus vite possible. Ils vont se mettre au boulot. Allez le féliciter sur les réseaux sociaux. Bravo Duncan. Écoute, tu reviens quand tu veux, c'est ta maison RMC Running.
Je vais rester ici alors.
T'es un bon ambassadeur. Voilà, t'as assuré la promotion d'RMC Running un peu partout en France, donc on te remercie. Merci à toi aussi Rabat.
Avec grand plaisir.
Un grand merci au maître Yodu en direct de Fourneau.
Maître Yodu.
Continue
avec Yodu.
Voilà, avec Yodu, c'est très bon ça. Et toujours ce conseil, que vous soyez dans un défi extrême ou pas, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.